Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah, je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 1er juin, et oui, il est 8h30 au programme de cette matinale, un petit quiproquo fait que les invités de cette semaine seront là la semaine prochaine, ça arrive, mais qu'à cela ne tienne, dans un instant on part à Holt pour la deuxième partie du reportage sur le festival, ce sera dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, je vous propose de réécouter tout à l'heure Kizito et Dominique qui nous ont parlé de cartes, et comme c'était trop bien, eh ben, je vous propose de le réécouter. Écoutez, ça va pas faire de mal. La musique aujourd'hui, c'est Grand Corps Malade pour le coup, et on y va évidemment pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là,
ce n'est que l'édito des Bartas. Quand j'étais gosse, et c'est pas si vieux, si, je vous assure que c'est pas si vieux, j'entendais souvent France terre d'accueil, France pays aux quatre couleurs, France pays des droits de l'homme, France terre d'accueil, France terre d'accueil, France terre d'accueil, mais bon sang, que s'est-il donc passé? C'est quand même fichtrement dommage, on passe à côté de tellement de choses. En Lozère, alors que les OQTF ont fait rage, ça s'est légèrement calmé depuis quelques semaines, nouveau préfet ou élection, on aura la réponse dans quelques semaines. Dans le Nord, encore et encore, des camps de migrants sont démantelés, comme ils nous disent, le choix des mots, le choc des images. Mais ça fait plus parler un match de foot. Et là, je vais vous dire, je suis content qu'on en parle de ce match de foot, Liverpool-Real en Coupe d'Europe. Pourquoi ? Eh bien, ça a montré aux yeux de l'Europe comment sont capables de se comporter nos politiques et notre police. Et ça a légèrement fait taire notre président. Les chiffres prouvent aujourd'hui que Darmanin, ministre de l'Intérieur, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui avaient dénoncé une fraude massive industrielle et organisé de faux billets et déploré que Liverpool avait laissé ses supporters dans la nature, ont menti. Ça aurait pu passer à l'as, on aurait pu oublier, ne rien faire pour le coup, rater, parce que ça n'a pas pu. Et que là, la sauce du mensonge a bel et bien foiré. Les images, ah les images, belle société, les images ont montré que les flics dépassés s'en sont donnés à cœur joie dans les supporters anglais qui finalement ne voulaient qu'assister à un match de foot et sont loin des hooligans qu'on aurait voulu nous décrire. Et ça se passe aussi comme ça pour les camps démantelés dans le nord, des camps de migrants, des gens qui n'ont rien demandé ou la seule chose de vivre en paix. Évidemment, certains, certaines s'en sont donnés à cœur joie pour la récupération politique. Je me pose la question, et si on ne tombait plus dans le panneau et que la France, peu importe de quoi on parle, redevienne vraiment une terre d'accueil? Grand Corps Malade avec Camille Lelouch, Mais je t'aime.
Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit attends, tu vas voir. L'amour, c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux.
J'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille, pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or, je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort, c'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perfore, je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment ça me dévore, je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute, mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais
je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime
du plus fort que je peux.
Les 26 au 28 mai au Bémar, 18e édition d'un festival hors norme, le festival Dolt, organisé par le Root Boy Crew avec évidemment à la déco et à la scénographie, Hangar au Gorille. Après un plateau avec nos amis de 48 FM le vendredi midi, on y était avec Bartas. Plus de 4 heures de rush, c'est qu'il s'en passe des choses là-haut. Plongez donc dans ce joyeux bordel, propos sérieux, concerts magiques, spectacles en couleurs et beaucoup de rire et tout rendez-vous. Balélo, rappeur, comédien, auteur, interprète, sera un peu le fil rouge. Pourquoi ? Que du hasard. Holtopia, la dictature du bonheur sous l'égide de Dimitrix. Bienvenue sous la bannière de cette 18e édition. Festival Dolt, 18e, action.
Mais qu'est-ce que vous fichez là avec votre tête de dalle ? Comment c'est d'être aussi moche ?
Le bonheur se décide, le bonheur doit être individuel et collectif. Si tu veux faire la nouva, tu la fais. Si tu veux pas, tu la fais pas. D'accord ? On n'a pas besoin de lui pour décider.
Non !
D'accord, collectivement, on peut faire quand même un petit peu mieux.
Salut Émilie.
Salut, enchantée.
Pareil.
Donc voilà, donc moi je fais partie du Root Boy et cette année on a voulu vraiment créer une espèce de projet dans le projet du festival en proposant à la MEX, donc, qui est sur la place de l'église, de faire entièrement partie du festival. Donc en fait, on a rencontré les éducs et les jeunes et on leur a dit, si vous êtes OK, vous allez proposer vous à manger. Donc, ben voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois. On a créé du coup du lien ici. Et puis, ils ont décidé de faire un poulet mafé et un voto machina. On avait prévu qu'il y en ait pour midi et pour ce soir. En fait, il n'y a déjà plus rien. Donc voilà, c'est super. Et demain, c'est une équipe de Bangladais, en fait, parce qu'ils sont 6 jeunes Bangladais à vivre ici au Lémar. Et voilà, du coup, ils nous proposent des plats bengalis demain. Voilà, donc ça a été un échange de culture, vraiment, culture culinaire, quoi.
Ce qui est incroyable, c'est ça, c'est le partage, en fait. Et c'est ce qui reste les valeurs même du Road Boy et du Festival Dolt depuis des années. Ça revient, là, aujourd'hui. On voit leur sourire et le fait de partager leurs plats. Est-ce que ça a été facile pour eux ?
Ils ont déjà dans leur culture les festivals, ça n'existe pas forcément. Et d'autre part, en vivant au Blémar, on peut pas s'imaginer que pendant 3 jours, il se passe ce qui se passe au Blémar. Donc, ça a été la surprise, oui, pour eux. Ils sont super contents. Hier soir, pour la première soirée, ils m'ont envoyé des messages avant d'aller au lit et ils étaient ravis, des grands sourires, c'est super quoi.
Le mélange des cultures.
Ouais.
Je pense que c'est comme ça qu'on gagnera.
Ouais, et puis aussi, j'ai aussi voulu beaucoup en parler parce que je trouve que c'est important que tout le monde se rende compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des parcours très compliqués et qui demandent qu'à partager et qui ont besoin qu'on les intègre et qu'on les aide aussi. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi.
Pour le montage, si jamais je dois faire une musique et tout, tu voudrais quoi comme musique derrière ?
Un très grand moment de partage, ça a été Turfu.
Turfu ?
Ça a été vraiment un très 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 grand moment de partage.
J'essaierai de mettre Turfu dans le montage. Merci beaucoup, Louis. Devant un truc, ça fait quoi d'être devant
la poste?
La poste.
Ben, je préfère être devant la poste qu'être au poste directement, quoi.
Balélo, rappeur, comédien, auteur. Tu joues ce soir? Je sais plus.
Non, ce soir, je vais essayer de me mettre à l'abri pour être demain à 12h30 en pleine forme pour dispenser ce cours qui me semble être quand même le fruit de 4 ans de recherche. Ce serait bête de louper le rendez-vous, quoi.
Est-ce que tu arrives à sortir de ton personnage parfois ou pas?
Oui, mais alors. Pratiquement, en fait, je passe mon temps à être en dehors de mon personnage puisque j'ai peu de chances de jouer ce cours. Et du coup, j'en profite à partir du moment où je suis invité à un événement de me plonger complètement, en fait, dans l'objet de ma recherche. L'objet ou le sujet de ma recherche, ça dépend un peu. Sujet, objet, tout ça, c'est des grandes questions philosophiques.
Ça c'est vrai. Mmh. Est-ce que les médias t'emmerdent ?
Pas encore.
Mais ça ne serait tardé.
Non, pas encore. Ils m'ont pas commencé à me saouler. J'ai plus peur en fait des réactions que pourraient avoir certains éleveurs, quoi, tu vois, au niveau toucher l'agroalimentaire, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux, quoi, on sait, les lobbying, tout ça et tout. Et bon voilà, j'ai peur qu'il y ait des exactions. Mais sérieusement, c'est-à-dire que on a fait une vidéo, quoi, on a filmé le colloque, et on m'a conseillé quand même de ne pas marquer mon numéro de téléphone à la fin, de peut-être l'adresse mail, faire gaffe, en fait, faire filtrer tout ça, quoi. Parce que on n'est quand même pas non plus, on n'est pas dans le siècle des Lumières, quoi, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est un peu artificiel tout ça, quoi.
Et ceci dit, là tout à l'heure, une question que je t'ai pas posée en plateau, ouais. On reviendra, mais c'est l'absurde au final. Fait élever les consciences et fait élever l'intelligence, ou alors au final, est-ce que certaines personnes, en fait, au plus que les gens de qui tu viens de parler, etc., se diront juste, non mais au final, est-ce que l'absurde, tu penses que ça peut aider aux choses?
Personnellement, je pense pas faire de l'absurde. Très sérieusement, je suis persuadé de faire un peu plus comme de l'antipsychiatrie, si tu veux. Tu fais des associations libres et d'image en image, comme ça construit tout un réseau, un champ de paroles. Mais c'est des paroles qui vont peut-être, certes, paraître anodines ou bêtes ou ridicules, en fait. Et c'est pas plus mal, parce que les enfants, des fois, on dit, bon, ils sont idiots. Mais les enfants, ils disent que des bêtises. Par contre, ils ont des valeurs, ils ont des principes. Et l'ensemble des mots forment, en fait, un espace vivable en fait. Parce que sans, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a des discours cyniques terriblement. On l'a vu, on a un éleveur là qui témoigne à un moment donné, qui à un moment donné de la mort de manifestants, il dit moi quand j'entends parler de violence policière, de policière, des poulets, je m'étouffe. On est sans arrêt dans un double discours et du coup je pense qu'on travaille plus sur la partie double discours mais à essayer de redonner du sens aux mots et pas justement de les vider. Alors c'est là où après ça fait toute une constellation si tu veux de renvois, de champs lexicaux comme l'ampoule par exemple, comme on disait l'augmentation des cadences industrielles, les jours artificiels, les villes qui ne s'éteignent jamais, on retrouve toujours ça quoi. Et à force de récurrence, ça crée un système, je crois, et c'est un peu comme une œuvre littéraire, si tu préfères, tu vois. Tu rentres dans un système où les choses, elles ont des valeurs, elles ont des couleurs.
Tu trouves pas que ça sent un petit peu? Ça sent la frousse, là, non? Hein? La chair de poule, hein, c'est ça, hein, ça sent l'abus de pouvoir, les bavures, les bonbons poivres, les sombres histoires, les coups durs, les coupures, les coups de boudoir. Entends-tu siffler les bouilloires? Hein, se déchirer les coutures et non car tu ne sors plus, trop peur qu'on te tue, qu'on te tire dessus. Rien n'est plus sûr, hein. Alors t'es chez toi, comme ça, tu t'assois et tu te chies dessus. C'est ça qui sent? Et t'es là, impuissant à voir tes droits disparaître un à un en parent. Tes droits. Petit rappel pour tous ceux qui sont nés après les années 2000. Les droits, c'est comme tes doigts, sauf que. Pff, ça en a plus l'air.
Ça va Seb?
Carrément.
Comment toi ça aussi se passe?
Eh bien, plutôt pas mal, hein. Je crois qu'on peut le dire.
Je crois que c'est à la hauteur de... C'est à la hauteur.
C'est à la hauteur, ouais, carrément.
T'es content?
Oui, vraiment.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pour l'instant sur le festival, sachant qu'on est samedi, à peu près, il est 15h, je crois.
Bah, le nombre de gens et l'ambiance. Carrément. Pas de relou. C'est trop bien. C'est franchement cool.
Bon festival, encore et encore.
Ouais, vraiment. On a fait plein d'entrées hier soir et je pense qu'il y en aura au moins autant ce soir. Voilà, et puis je trouve que ce qui est cool, j'ai l'impression que le public il comprend notre délire quand même. Voilà, et ça c'est hyper. Enfin, ça fait du bien quoi.
Ouais, c'est un pari osé, tu crois? Ce nouveau halt, après ces deux années de galère, c'est un pari.
Je sais pas si c'est un pari osé, en tout cas, vu que c'était plus difficile pour nous de relancer la machine quoi. On a un petit peu galéré à dire comment on fait, mais on a oublié ça. Enfin voilà, il y a encore des trucs où on a oublié nos réflexes quoi. Parce que quand tu fais chaque année, tu n'oublies pas, tu as tout, et voilà, quand ça fait 3 ans que tu l'as pas fait, parce qu'il y a 3 ans entre le dernier, entre celui de 2019 et celui de 2022, et ben ouais, tu te perds un petit peu quand même à des moments. Et voilà, tu oublies par exemple qu'il faut commander plein de rouleaux de TPE pour la billetterie, et du coup tu te retrouves en rate de TPE à minuit au bar, et tu fais « Ah merde, qui c'est qui peut nous dépanner? Ok, on appelle Mario, il nous en ramène, et voilà. »
Bonsoir. Vous vouliez que ça se passe bien?
Eh bien écoutez, ça s'enjaille. C'est tout pour le fun ce soir. Pour l'instant, tout va très bien. C'est exactement comme dans mes plans. La tyrannie du bonheur, la tyrannie pépouze, tranquillou bilou.
Un peu notre fil rouge de la journée. Est-ce que un média doit donner la parole à tout le monde?
Balélo.
En fait, si c'est avéré que les personnes mentent ouvertement, tu vois, font ce qu'on disait tout à l'heure du révisionnisme et tout, je suis pas certain en fait. C'est-à-dire qu'il y a des lois déontologiques presque. On est une université libre en fait. Si on laisse parler n'importe qui pour dire n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il faut pas que ce soit n'importe quoi, je pense, moi, personnellement.
Et toi, en tant qu'artiste, là, justement, tu vas à cette nuit nuptiale.
Ouais.
Est-ce que c'est important de t'engager, toi, en tant qu'artiste?
Bah, c'est. Si tu veux, la vie, quand tu veux être dégagé, quoi. À part si tu es, justement, à part si tu as des intérêts suffisamment importants, que tu te coupes du monde, tu te coupes des vivants, tu te coupes d'eux, et tu commences à créer une scission, mais sinon, en fait, on est tous dans le même bain, quoi. Alors, je vais gagner 500 euros de plus que lui, il va gagner 1000 euros de plus que moi, tu vois, au final, on est tous dans la même merde. Rien qu'au niveau de la planète, tu vois, rien que... Donc, à partir de là, si tu veux, tu peux pas... Moi, à mon avis, c'est mon truc. Et puis après, je suis engagé, oh, je te fais quand même, tu vois, là, je me dirige vers le bar, par exemple. C'est quand même une forme d'engagement relatif. J'engage mon corps dans un mouvement. C'est déjà, c'est le début. Et oui, la question de tout à l'heure, tu disais, est-ce que les journalistes font chier, est-ce qu'ils m'importunent, pardon. En fait, ils m'importunent...
T'as le droit de dire.
Ouais, j'ai le droit, ouais. Mais ils m'importunent pas, en fait, à partir du moment où... c'est un métier respectable, je trouve, en fait. Justement, ça permet de donner la parole à des gens, ça permet de réentendre des choses. Après, c'est comme tout, c'est l'emploi de ce qu'on en fait, quoi. Je trouve que, justement, il y a des chaînes télévisuelles, voilà, c'est la radio avec des images, si tu préfères. Et bien, ils ont laissé des années de la parole à des gens qui continuent de détruire les mentalités, qui continuent de créer des gens qui sont... La dernière fois, un copain disait, ils sont tués dans l'œuf, en fait. On leur tue la capacité, tu vois, c'est beaucoup d'idéologies comme ça qui tuent les gens. Donc autant donner la parole à des gens, sans faire de la politique, mais à des gens qui continuent d'ouvrir des espaces autour de nous, de créer des espaces de sortie, quoi, tu vois.
Salut, moi du coup c'est Romain, et je t'en prie, c'est Romain et je viens d'accompagner Ami sur scène de votre merveilleux festival en Lozère.
Comment ça s'est passé? Parce que vraiment vous avez foutu le feu, mais un truc de dingue.
L'heure joue beaucoup aussi.
Je sais pas, parce que vraiment
c'est. Non, franchement, il y a une vraie ambiance. Hein. Moi, ça me rappelle même un peu. Bah, moi, je suis breton, et ça me rappelle un peu les ambiances des petits festivals en Bretagne. Du coup, moi, à chaque fois, je suis touché, quoi, par ces petits patelins là, tu vois.
Comment ça s'est passé cette rencontre musicale?
Musicale, bah, en fait, moi, je suis jamais allé. Je suis toujours pas allé en Afrique. Elle, Ami, n'était jamais venue en France. Et en fait, on a fait l'album Distance. Via un label qui m'a contacté, en fait, un label français, c'est Blic Bassi qui le gère. Il m'a envoyé un message pour que je produise pour Ami, et du coup, en fait, c'était censé juste être une prod comme ça. Finalement, ça a bien matché avec lui. Et j'ai produit tout l'album, du coup, quoi.
Comment t'as travaillé?
Parce que ça
se travaille dans la conception.
Ouais, carrément.
Ça doit monter, etc.
Ouais, en fait, même moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce genre de musique un peu afro, house et un peu tribal, futur tribal un peu. Et il s'avère que ça a vraiment bien, bien matché, en fait. C'est juste bien tombé, en fait. Je sais pas s'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de réflexions avant, si ce n'est que toute ma réflexion que j'ai eue tout seul. Dans la conception de la musique, quoi, auparavant, voilà. Mais en gros, ça s'est fait assez facilement, finalement.
T'es percussionniste?
Oui, de base, ouais. Percussionniste de base, batteur même, conservatoire et tout ça. Mais j'ai un peu lâché la batterie depuis. Je préfère l'approche des percussions, en fait. Je trouve ça plus sage que la batterie.
Il y a eu un moment un peu d'impro.
Ouais.
En fait, une espèce de moment, alors je sais pas te dire lequel, mais quand on voit un moment où ça se lançait,
ouais.
Et tout d'un coup, il y a eu un moment d'improvisation, en fait, où elle voulait que ça monte.
Ah oui.
Et toi, où tu t'es dit, ah non, on n'est pas dans le truc. Et en fait, au final, elle t'a regardé, est-ce qu'il y a eu de l'impro ce soir?
Ah, bien sûr, oui, il y a eu énormément, parce que... Là, effectivement, le public était bien chaud, il leur demandait, quoi. On peut pas... Là, quand je lance les morceaux avec mon ordi, il y a un début et une fin. Et quand c'est fini, là, le public s'avère qu'il était à fond encore, quoi. Alors c'est vrai qu'on est obligé des fois d'improviser. Mais finalement, c'est toujours plaisant de faire ça, parce que je pense que ça se ressent dans l'énergie, que c'est improvisé. Et du coup, tout le monde est dans une sorte d'une connexion, quoi, je pense. Et ça se ressent, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Tu crois?
Ok.
Mais je pense en tout cas on l'a ressenti.
Ok.
T'es jeune dans la musique. Est-ce que tu vois dans 30 ans et te dire que les mêmes énergies seront là encore.
Ah ouais, complètement. C'est marrant comme question, ouais.
Ah bah en tout
je sais pas quoi dire à part ouais, complètement. Mais ouais.
Où tu vas dans 30 ans? En tout cas, travailler avec ce genre d'artiste encore et toujours.
Ouais.
Dans l'afro et dans les trucs.
Ouais, toujours, comme je disais, j'ai envie d'approfondir ce côté tribal et futuriste. Futur tribal, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Et même me lancer un peu en solo et tout ça, quoi. Faire des. Mais ça, c'est un projet.
En afro, toujours et.
Ouais, plutôt percu, assez tribal, avec même des sons un peu américains natifs, des trucs comme ça, un peu chaman, un peu des trucs comme ça. J'aime bien. Comme si j'aurais espoir de faire la musique en club et de connecter les esprits en club, quoi.
Vous avez travaillé à distance quand vous êtes vus tous les deux. Comment ça s'est passé en fait
Lorsqu'on s'est rencontrés?
Ouais.
Bah c'était du coup, on s'est rencontrés pour la tournée, pour faire du live. Donc direct on a répété dès le moment où on s'est rencontrés. Bah, c'était à Bordeaux, à la SMAC, là, comment ça s'appelle? Le Brochet de Palmer. Donc, c'est la grosse salle de Bordeaux là. C'est eux qui nous ont accueillis pour qu'on fasse nos premières dates. Enfin non, notre première résidence, et ensuite on est parti pour notre première date dans les îles Canaries. Voilà. Donc c'était hyper stressant. Pour elle surtout, c'était dingue. Et du coup voilà.
Faut assumer une tournée avec quelqu'un qu'on connaît pas.
Ouais, surtout que dans tout autre pays.
Imagine, toi ça match pas, etc.
Ah ouais, ouais c'est vrai.
Ou avec elle ça match pas.
Ouais, ouais, ouais c'est vrai.
Comment on gère une tournée dans la tête?
Faut être humain en fait. Enfin, faut être sage en fait. Enfin, faut pas finir avec ses caprices ni rien. Enfin, enfin je sais pas. Pour moi c'est naturel quoi de. De pas faire chier quoi. Mais bon.
Pourquoi c'est naturel alors? Quel conseil tu donnerais à un gamin entre guillemets, hein,
ouais,
qui démarrerait une tournée avec
de mettre son ego de côté un petit peu je pense au départ tu vois pas trop ouais tranquille quoi tu vois on est tous dans le même délire. je sais pas.
Là ce soir ouais. Non tu penses que l'ego.
Ouais je pense ouais. Pour apprendre à vivre avec quelqu'un comme ça qu'on connaît pas. On n'a pas du tout les mêmes codes et tout, ouais bah oui faut se mettre au service de l'instant en fait, je pense. Mettre son âme au service de l'instant, plutôt que de penser trop à soi et à ses petits trucs.
En tout cas c'est
bon.
Génial.
Voilà, merci.
Je sais pas quoi dire. Pose une question trop frontale, trop directe.
Elle était trop.
Trop abrupte.
Ouais, trop.
Quoi?
C'est vraiment un cri d'handicap.
Voilà pour cette deuxième partie sur le festival d'Olt. La dernière partie, normalement, si tout va bien, ce sera mercredi prochain. Je dis la dernière partie parce qu'il y aura peut-être une quatrième, sait-on jamais. Un peu d'engagement, ça fait pas de mal. Grand Corps Malade, la chanson s'appelle Au Feu Rouge. Attention, ça pique.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Trois mois de périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle, comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Retour en plateau avec Kizito et Dominique, tous les deux cartographes. Toi pour le parc national des CNM, Kizito et Dominique pour l'entente UNESCO. La première question est somme toute assez simple. Comment on devient cartographe? C'est quoi votre parcours, Kizito?
Alors comment on devient cartographe, c'est une grande question. Moi j'ai fait des études de géographie, j'ai toujours été intéressé par les cartes en fait. Tout jeune, je me baladais, voilà. Donc pour moi c'était un peu une évidence. Enfin, j'ai commencé par faire de l'histoire à vrai dire, mais il y a un moment donné, je me suis dit mais en fait c'est trop bien. Enfin, j'adore cet outil-là, donc allez, je vais devenir cartographe. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, j'ai fait des études de géographie et ensuite je me suis spécialisé en cartographie et puis voilà, de fil en aiguille, et ben, j'ai travaillé dans plein de structures qui faisaient de la carto pour arriver enfin au Parc National des Cévennes, un petit peu par hasard d'ailleurs, je me suis installé là et puis, j'ai vu qu'il y avait ce poste-là et voilà, j'ai fait mon trou de petit à petit quoi.
On va en parler d'ailleurs de ce qu'est être cartographe pour le Parc National des Cévennes. Ouais. Dominique, toi, comment t'es venu à la cartographie? Parce qu'il faut y penser quand même. Hein.
Ben, par hasard, hein, bien sûr. Non, moi, c'est au fil de mes études, je suis allé dans des domaines assez différents. Je me suis pas mal cherché et j'étais confronté aux outils qu'on utilise pour faire de la cartographie. D'ailleurs, tous les deux, à chaque fois qu'on s'intéresse à des domaines où on a besoin de représenter, de comprendre le territoire, voilà, soit je sais pas, la gestion de l'eau, la gestion des risques ou quoi que ce soit, on a besoin de mobiliser ces outils. Et donc j'ai pas forcément eu de déclic en étant confronté à ça, mais à un moment dans mon parcours j'étais un petit peu arrivé au bout et sans trop savoir où aller, avec pas mal de questionnements, et en faisant tout un bilan de mon parcours, je me suis dit mais en fait c'est trop chouette la cartographie. Je me suis dit mais c'est incroyable, d'abord parce que on utilise des ordinateurs, j'aime bien les ordinateurs, c'est plutôt ludique, et puis c'est un bel objet, c'est un objet qui est esthétique, c'est un objet qui est littéraire aussi, on peut raconter des histoires, on peut dire des choses, et je trouvais aussi que on au niveau professionnel, ça me donnait un statut intéressant dans une entreprise. C'est-à-dire que le gars qui fait des cartes, c'est aussi comme un artisan, c'est quelqu'un qu'on va voir, on lui demande un service, et puis nous, on fait valoir nos compétences et on donne un bel objet à la fin. Et donc ça, ça me plaisait, donc j'ai fait des études là-dedans, et puis bien m'en a pris parce que je me suis senti très à l'aise tout de suite dans ce métier-là.
Est-ce qu'il faut forcément, alors toi, donc tu as suivi des études de géographie Kizito, comme tu le disais, faut forcément être fort en géo?
Graphie? Non, pas forcément. En plus, le métier a beaucoup évolué. Moi, je suis plutôt un cartographe de l'arrière-garde. Hein. Je suis plus âgé que Dominique. Donc, lui, il parle tout de suite d'ordinateur, d'informatique. Moi, j'ai commencé en dessinant parce qu'en fait, j'aimais bien les arts graphiques aussi. Et c'était une façon de faire un petit peu quelque chose d'artistique. Hein. Donc, on peut effectivement venir de différents horizons pour faire de la carto. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des collègues aujourd'hui qui sont d'abord informaticiens, puis qui sont intéressés à ça et qui font ce qu'on appelle de la géomatique maintenant. Enfin, on en fait tous, mais eux ont vraiment cette entrée informatique.
Justement, c'est quoi être cartographe pour le parc national des Cévennes? C'est quoi ton boulot?
Alors, le boulot, souvent les gens me disent, mais pourquoi tu fais des cartes? Ça existe déjà, les cartes, effectivement. Il y a des cartes de l'IGN, etc., pour nous déplacer, etc. On connaît, mais en fait, nous, on a des grandes missions dans un parc national. Donc il y en a trois grandes en fait. La première évidemment c'est de connaître la nature pour mieux la protéger. Donc ça c'est très important. Donc il faut collecter des données sur la faune, la flore, les milieux naturels pour pouvoir savoir si la nature se porte bien ou si elle a des problèmes, si elle régresse, etc. Donc voilà, on est obligé de faire de la carto régulièrement pour savoir où on en est. De l'état de la nature, quelque part. Après, la deuxième grande mission, c'est aussi de répondre aux demandes du territoire. On est sur un parc habité et les gens ont des demandes. Il y a les agriculteurs, les forestiers, les gens qui font du tourisme, font des aménagements, font des travaux. Et comme on est dans le cœur du parc et que notre mission, c'est de préserver la nature, on discute avec eux. Et forcément, on est obligé de faire de la carto pour pointer les enjeux, pour dire, là, il y a un truc, attention, il faut protéger une zone humide, etc. Enfin, voilà. Donc là, ça c'est aussi une dimension fondamentale du travail. Et dernier pilier, c'est les activités de pleine nature qui se développent de partout. Donc nous, on a un service qui s'occupe de ça, qui sensibilise, en fait, le public à la nature et à tous les trésors qu'elle contient. Et donc, nous, on met en forme, on est obligé de cartographier pour dire, là, il y a des sentiers intéressant, vous pouvez vous déplacer là-dessus, vous allez voir, c'est super, vous pouvez être hébergé dans tel lieu, vous pouvez voir tel type de patrimoine sur le territoire. Donc tout ça, ça exige qu'on ait des bases de données et qu'on puisse les représenter sur des cartes de différentes façons, soit des cartes papier, soit des sites web maintenant, il y en a plein, nous on a un site qui est dédié pour ça. Donc voilà, tout ça, il faut le mettre à jour, collecter les données, mettre en forme, c'est un boulot assez important que je ne fais pas tout seul d'ailleurs, on est plusieurs pour le faire, c'est quand même une grosse machinerie. Et voilà, et donc souvent à la fin de tout ce processus, je produis des cartes pour répondre à toutes ces missions. Quoi.
Depuis 10 ans maintenant, on est patrimoine UNESCO. Toi, Dominique, tu bosses justement pour l'Entente. C'est un peu dans la continuité de la mission Kizito et du Parc National des Cévennes. C'est quoi ton boulot?
C'est très proche de celui de Kizito. Je pense qu'il a balayé largement les grandes missions qu'on a en étant cartographe. Avec peut-être pour moi une petite variante au niveau des thèmes, puisque nous, ce qui nous intéresse au niveau de la gestion du site inscrit au patrimoine mondial UNESCO, c'est vraiment les paysages et l'activité agricole et tout le patrimoine qui est lié à cette activité agricole. Donc on a de la même façon une mission fondamentale qui est de connaissance, c'est en gros c'est un peu l'adage mieux connaître pour mieux gérer. Donc on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité agricole, quelles sont les pratiques agricoles, quels sont les types d'assolements et comment tout ceci finalement a un impact sur le paysage, positif ou négatif. Et on a des missions également de connaissance sur l'inventaire de tout ce patrimoine pastoral, agro-pastoral, qui sont du patrimoine très différent. diffus dans le paysage. Voilà, c'est ce que les caselles, les lavones, les jas, ce genre de choses, très peu connues. Et voilà.
Je crois que je n'ai pas compris un seul des mots que tu viens d'employer.
C'est pas vrai. Oui, enfin, ce patrimoine, oui, c'est des mots souvent un petit peu des désignations un peu précises en occitan. Voilà, par exemple, les caselles sont des petits abris pour les bergers, voilà, qui sont plus du tout usités aujourd'hui. Les lavones, ce sont les espèces de mares, donc sont bâties par l'homme et qui permettent aux troupeaux de pouvoir s'abreuver. Voilà, on a tout un tas de patrimoine comme ça, très peu connu, mais je vous engage à aller voir le centre d'interprétation à Florac qui est ouvert cette semaine pour les vacances, et du coup, vous comprendrez tout ça. Et donc, mission de connaissance fondamentale, et puis la cartouche, c'est un outil d'aide aux études, en fait. C'est un peu ce que disait Kizito. Et effectivement, c'est fondamental de pouvoir mobiliser cet outil-là quand on va travailler très spécifiquement sur des sujets en particulier. Par exemple, voilà, l'année dernière, moi, j'ai pu travailler un peu sur les terrasses agricoles en Cévennes, voilà, en se posant la question quel était finalement le devenir de ces terrasses dans un contexte de changement climatique avec un renforcement des épisodes pluvieux intenses. Donc là-dessus, voilà, on a besoin des outils pour voir, savoir où sont les terrasses, savoir comment elles se comportent lors de ces épisodes pluvieux, savoir leur état de dégradation, et tout ça, on peut mieux le comprendre grâce à des outils qui vont représenter le territoire. Et enfin, le dernier volet, c'est pareil, c'est communiquer, vulgariser, donc finalement donner à voir et à comprendre à chacun, et notamment pour les gens de passage, les touristes qui ont besoin de comprendre. Et donc là, on est dans des thématiques, ça qui est intéressant, c'est que la carte, c'est pas juste se localiser, c'est aussi montrer des phénomènes et montrer un thème qu'on a envie de mettre en avant. Donc si on a envie de mettre en avant la nature, on va montrer ses spécificités, et, voilà, ou alors ça peut être l'activité agricole, ou alors ça peut être toute autre chose.
Entre l'entente et le parc national, évidemment, il y a du partage, vous bossez ensemble ?
Ben, on devrait plus bosser ensemble. On sait qu'on a des thèmes en commun. Après, on est tous un peu le nez dans le guidon, hein, comme vous le savez. Et puis, on n'est pas beaucoup. Alors là, je prends ma petite casquette syndicale pour dire que...
tu savais que tu n'allais pas pouvoir prendre, c'est sûr.
Voilà, donc en fait, oui, on a quand même une charge de travail importante. Et du coup, ouais, c'est pas évident, mais on se dit... Alors, on a déjà discuté avec eux, mais oui, il faudrait qu'on fasse des projets avec eux. Là, toutes les choses que Dominique a dites sur le petit patrimoine vernaculaire, c'est super important, et effectivement il y a des choses à partager là-dessus, voilà, donc effectivement on a des thématiques qui sont tout à fait liées, ouais.
Est-ce que les Cévennes, est-ce que la région est particulièrement je vais dire, employée, allez, ouais, sympa à cartographier, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour vous qui êtes cartographe?
Alors oui, je dirais le relief. Voilà, on est dans une zone de moyenne montagne, et quand on fait une carte et qu'on juste on représente un petit peu le relief avec des petits effets d'ombrage, bah c'est chouette parce que ça apporte énormément d'informations, et tout de suite on voit les choses se dessiner, on voit les grands cosses, on voit les gorges, on voit les réseaux des vallées Cévenoles se détacher, le mont Lozère, le mont Tégoual, et rien que ça, moi je trouve que voilà, c'est toujours très satisfaisant, et ouais, je serais bien triste si j'étais en Bretagne pour faire de la carte.
Ah, moi je sais pas, moi j'ai un peu bon, moi, évidemment, moi je suis amoureux du coin, je trouve que c'est un endroit magnifique, donc effectivement quand on cartographie, voilà, c'est un peu magique, quoi. On dessine ses formes, etc. Enfin, c'est super. Après, je pense que le trait de côte breton est très beau aussi à représenter, il n'y a pas de souci.
On va pas fâcher les Bretons qui nous écoutent.
Tout à fait. Non, mais... Voilà, donc oui, non, c'est effectivement, enfin je ne sais plus ce que je voulais dire du coup, mais oui, c'est un endroit assez magique à cartographier, voilà, avec plein de petits secrets. On a l'impression des fois quand on arrive là que c'est vide, mais en fait il y a plein de choses, et d'ailleurs tous les gens peuvent contribuer à faire de la cartographie. Maintenant il y a des outils, hein, comme OpenStreetMap, donc c'est une application où vous pouvez noter ce que vous voyez partout. Alors je dis ça parce qu'en fait quand on est quand on regarde la carte OpenStreetMap sur notre territoire, en fait on n'a pas, comme il y a peu de contributeurs, hein, localement, et ben elle est peut-être moins fournie que dans d'autres endroits, donc voilà, avis aux vocations, hein, si vous voulez faire de la carto, c'est possible via cet outil-là, quoi.
La question est peut-être simpliste. C'est quoi une bonne carte ? Et à contrario, est-ce qu'il y a des mauvaises cartes ?
Ah ben bah oui, il peut y avoir des très mauvaises cartes. Non, une bonne carte, je dirais que c'est une carte qui a un message et qui arrive à véhiculer ce message. Et voilà, c'est une carte où on sent la patte de l'auteur. Et je pense que ça, c'est important de le dire. Voilà, il n'y a pas... une carte, c'est pas forcément une vérité, il y a toujours quelqu'un derrière, et donc il faut aussi savoir lire ce que la personne a voulu communiquer. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est un objet aussi littéraire. Voilà, moi je le comprends comme ça, ça raconte une histoire, et il y a une petite main derrière qui a envie de raconter quelque chose. Et donc on peut avoir des cartes de propagande, par exemple. Il y a un truc qui est génial, si vous voulez regarder, c'est les anciennes cartes de l'ex-URSS. Mmh. Voilà, on a des trucs vraiment formidables, voilà, avec souvent une vision complètement décentrée, parce que c'est vrai que nous, quand on voit un globe, un map monde de base, Google Maps par exemple, ben oui, ça s'ouvre, la France elle est en plein milieu, ben oui, c'est hyper eurocentré, c'est comme ça, mais décalons un petit peu, et quand on voit par exemple l'ex-URSS, il faisait des cartes centrées sur la Russie, bon ben oui, ça prend beaucoup de place, donc on a une autre vision du monde, donc voilà, ça déjà c'est déjà une bonne façon de se rendre compte qu'on peut représenter des choses très diverses, et on peut mentir avec les cartes, voilà, et notamment les cartes statistiques selon la façon dont on fait ce qu'on appelle les classifications, c'est-à-dire voilà, typiquement les cartes qui vont du vert au rouge, voilà, on va fixer des seuils sur des données quantitatives, mais selon comment on fixe le seuil, bah, le rouge sera plus ou moins présent, donc on peut faire passer des messages très biaisés avec des cartes.
Kizito t'inquiète ça.
Ah oui, complètement. Non, bah là, on voit, on parle entre cartographes, donc c'est très bien. Non, c'est vrai que pour moi, la carte, une bonne carte, c'est déjà un bel objet. Enfin, voilà, moi, je ne conçois pas effectivement de carte là faite à la va-vite. Voilà, moi, je pense que ça peut être vraiment un bel objet artistique, on va dire. Et après, bon, moi, j'accorde beaucoup d'importance aussi à la lisibilité. Hein. Quand j'étais petit, moi, je lisais des BD. J'aimais bien ce qu'on appelait le très clair, un peu à la RG, etc. Et pour moi, une carte, en fait, pour que le message le véhicule passe, eh ben il faut qu'elle soit claire, lisible, voilà, que le message soit le plus clair possible pour les gens. Donc cet aspect-là aussi est important pour moi. Et après, il y a aussi des cartes qui sont complètement farfelues, et c'est rigolo aussi. Mais après, je ne sais pas si on appelle ça une carte, parce qu'il faut d'abord informer les gens. Enfin, la carte est faite pour informer les gens, quoi.
Est-ce qu'il y a des différentes écoles de cartographie? Est-ce qu'il y a différentes manières de faire? Ou alors, est-ce que finalement, faire une carte, c'est toujours le même processus?
J'avais
dit qu'il n'y avait pas de question piège pourtant.
La question est difficile. Bah, je pense que le métier, comme on l'a dit tout à l'heure, a énormément évolué. Et aujourd'hui, on mobilise essentiellement des outils informatiques, ce qui n'était pas le cas, effectivement, il y a ne serait-ce que 50 ans. Où, voilà, je sais pas, pour aller faire une carte topographique, bah, on avait des gens de terrain qui arpentaient le territoire, qui dessinaient, voilà, qui utilisaient aussi des outils pour être correct au niveau géométrie. Aujourd'hui, c'est très différent. Donc, on a une démarche souvent préliminaire qui est de la collecte de données. On va beaucoup chercher des données qui existent déjà par ailleurs, notamment sur Internet. On va souvent beaucoup retravailler ces données pour les mettre en forme, etc. Et ensuite, utiliser des outils pour les présenter. Donc, on voit déjà qu'on est dans des démarches très différentes. Ensuite, je pense que ça dépend vraiment du background des personnes. Et comme c'est des outils informatiques, c'est aussi des outils qui sont accessibles tout à chacun. Donc, on a des personnes qui ont des formations universitaires en géographie et puis qui sont spécialisées en carto, qui vont faire des cartes et qui vont peut-être être très, très attaché aux règles, etc. On a des gens qui vont venir plutôt des arts graphiques et qui vont chercher à faire des objets esthétiques à partir de données, représenter de façon un peu nouvelle les choses. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que finalement, je pense qu'à un moment, l'arrivée des outils informatiques a pu faire peur les anciens cartographes, parce que c'était un peu la mort du métier, tout le monde allait faire n'importe quoi. Et en fait, moi, je trouve que ça a ouvert énormément de créativité, et notamment les outils web. Voilà, finalement, quelle que soit l'origine des personnes, à partir du moment où on est attaché de faire des objets beaux et intéressants, voilà, on peut faire des cartes vraiment voilà, surprenantes. Voilà.
Alors justement, Kizito, on t'imagine avec ton chapeau, ton petit crayon, là, en train d'arpenter le territoire et remplir des petits carrés. Justement, cette transition avec l'informatique, ça s'est passé comment pour toi? Qui disait qu'il dessinait à la base?
Alors, ça s'est bien passé. En fait, moi, quand j'ai commencé mon travail, on était déjà sur informatique. Moi, c'est pendant ma formation que j'ai fait plus du terrain. Donc, en fait, je suis quand même aussi un produit voilà, fin de la nouvelle façon de cartographier. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Moi, quand j'ai commencé, on faisait essentiellement des cartes statiques hein, sur du papier, sur écran effectivement, mais maintenant ça a énormément évolué. Vous regardez, vous allez sur internet, vous voyez, il y a plein, vous prenez une carte par exemple, tout ce qui est climatique, etc. Enfin moi quand je fais du bateau aussi, et ben en fait quand vous avez des applications maintenant qui vous permettent de voir l'évolution des vents avec des cartes dynamiques complètement, donc ça a complètement changé en fait la façon de cartographier, et c'est évidemment très intéressant, mais effectivement totalement différent. C'est, on est plus, beaucoup plus maintenant dans des processus dynamiques sur, le, sur la cartographie. Alors il y a encore beaucoup de cartographie statique, enfin, on montre des choses soit sur une carte, soit sur un écran, mais voilà, il y a les deux, et c'est vrai qu'on se, voilà, on arrive de plus en plus dans des objets qui sont à la limite, hein, entre de très numériques, avec beaucoup de, d'interactions, etc. Alors qu'avant, on était sur des choses beaucoup plus statiques.
Et ce qu'il y a de dingue, c'est que tout est cartographiable.
Exactement, c'est oui, tout à fait. Bah, maintenant, nos vies sont géolocalisées de partout, hein, sur nos portables, dès qu'on se déplace, on produit quelque part de la donnée géographique, et tout est effectivement transformé en données géographiques aujourd'hui, ce qui pose aussi plein de questions, hein, pour nos libertés, évidemment. Mais oui, effectivement, c'est, tout est géolocalisable quelque part. Donc oui, on vit dans ce monde-là de plus en plus. Ouais.
J'en ai appris des choses en préparant cette émission. Il apparaîtrait que la première carte découverte au monde représentant la Terre et non plus le ciel, hein, parce qu'au début, je crois que les hommes cartographiaient le ciel,
oui,
et les étoiles.
Exact.
Et donc la première carte représentant la Terre et non plus le ciel serait la carte de Bedolina, taillée dans la pierre sous la forme de pétroglyphe. Et oui, c'est du dessin gravé dans la pierre. Et elle est située dans la vallée du Val Camonica, au-dessus du village de Bedolina, au nord de Milan, à la frontière suisse. Alors cette œuvre, créée durant l'âge de bronze, entre 2200 et moins 750 avant notre ère, c'est une représentation très soignée d'un village préhistorique. Alors c'est assez rigolo à aller voir. Les hommes ont très rapidement compris l'intérêt de faire des cartes.
Ah, c'est clair, oui, il y a des cartes depuis l'Antiquité. Enfin, moi, je connaissais le cas des Égyptiens, en fait, hein, qui cartographiaient, alors à minima, sur des tablettes. Et il y a évidemment plein de vestiges de cartes, hein, dans l'histoire, notamment quand on a commencé à naviguer autour de la Terre. Donc là, c'est très intéressant, parce que du coup, on voit les représentations de la Terre de cette époque-là, qui sont quand même largement différentes de celles qu'on a aujourd'hui. On se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire pour y aller? Alors après, il y a eu la découverte de l'Amérique avec... voilà, des gens qui partaient un petit peu à l'aventure, hein, faut le dire, hein, parce qu'ils pensaient qu'il y avait des continents de l'autre côté d'un bras de mer, mais en fait ils ne le savaient pas, quoi, hein. Donc oui, il y a une grande histoire de la cartographie qu'on peut voir dans plein de musées, qui est vraiment passionnante, et j'encourage aussi les gens à aller se documenter là-dessus.
Ouais. Ouais, c'est clair, c'est vraiment passionnant, ouais. J'ai mis un petit doigt dedans et c'est hallucinant tout ce qu'on peut y trouver. On parlait tout à l'heure de propagande, de cartes, etc. Est-ce que, mais les cartes ont aussi une grosse influence sur les populations.
Sur les populations, oui, aujourd'hui, de toute façon, tout le monde utilise des cartes, mais c'était pas forcément le cas auparavant. La carte, pendant longtemps, ça a été aussi un objet de pouvoir, c'est-à-dire notamment les premières cartes en France, il y avait aussi cette idée-là de maîtriser le territoire pour la personne qui dirigeait. Donc, c'est aussi un enjeu en tant que guerre, puisque une bonne cartographie, c'est ce qui permet effectivement de pouvoir élaborer des stratégies et notamment de pouvoir gagner des terres, des guerres, pardon. Donc oui, effectivement, la carte s'est démocratisée, mais je pense qu'elle garde quand même un statut un peu noble, j'ai l'impression. Enfin, voilà, quand on voit une carte, on sent qu'on a un objet, effectivement, qui est le résultat de beaucoup de connaissances et quelque part, qui donne un petit peu de... Bon, voilà, on peut rester un peu petit par rapport à une carte en se disant, voilà, il y a quelque chose, il y a un enjeu de pouvoir autour de la carte que je trouve intéressant et qui nous aide aussi à comprendre le monde, à se localiser, voilà, c'est...
Voilà, c'est passionnant. Kizito, comment les frontières du cœur du parc national des Cévennes se sont-elles dessinées?
Waouh. Alors, les gens ne le savent peut-être pas, mais en fait, notre cœur de parc national est extrêmement découpé. Donc, ces frontières, enfin, ces limites, elles ont été fixées quand on a mis en place le parc. Donc, il est né en 70, hein, le parc. Et donc, un peu avant, il y a eu un groupe de gens qui ont fait effectivement un certain nombre de travail de terrain. Et globalement, ce qu'ils ont cherché à faire, parce que comme je vous le disais, on est dans un parc de moyenne montagne habitée, donc c'était compliqué de se dire qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on protège pas. Et là, globalement, quand on regarde, en fait, ça recoupe un petit peu tous les sommets, tous les points hauts du parc, hein, cette cette limite et on a contourné systématiquement les endroits où il y avait des villages aussi. Donc on s'est dit, on part des sommets, le Mont Lozère, les Goales, les Grands Causses, etc. Et donc on a cette ligne très très découpée qui fait aussi le tour voilà, des petits bourgs, etc. pour qu'on ait une zone qui soit relativement pas touchée par l'activité humaine, même si c'était quand même le cas, puisqu'il y avait des agriculteurs, des forestiers, etc. Mais globalement, voilà, on a cherché, alors, dans les autres parcs, hein, par exemple les parcs alpins, on est là vraiment dans des domaines d'altitude. Il ne se passe pas grand-chose hein, en termes d'activité humaine parce que c'est trop haut. Nous, voilà, on a un peu joué là-dessus, et ce qui fait qu'on a cette frontière très découpée, qu'on a d'ailleurs un petit peu augmentée en 2009. Par exemple, toutes les corniches de la Jonte qui sont très belles, vous voyez, avec ces clochetons dolomitiques, etc. Donc ces formations géologiques qui sont très particulières et qui abritent des colonies d'oiseaux, hein, notamment les rapaces, les vautours, etc. Et bien là, donc on est allé voir... Hein, les communes et on leur a dit est-ce qu'on peut classer ça en cœur de parc national. Donc ça c'était pas toujours évident hein, parce que pour eux ça veut dire bah oui on met quelques contraintes sur ce territoire, mais voilà on a fait quand même un petit peu progresser ce domaine hein, où on réglemente pour préserver au mieux la nature, et voilà, c'est le fruit d'une longue discussion, on veut dire, avec le territoire.
Quelle est la plus grosse problématique, si tant est qu'il y en ait une, à laquelle vous avez été confronté, Dominique ?
En tant que
cartographe.
Pour pratiquer de la cartographie, je dirais l'absence de données. Tout simplement, c'est souvent quand on s'intéresse à tes domaines très spécifiques, on n'a pas toujours l'information. Voilà, moi dans mon cas, une information qui souvent me manque, c'est plus particulièrement quelles sont les pratiques agricoles au sein des exploitations. Donc on a des données hein, de recensement agricole, donc on sait quels sont globalement les types de production, les orientations techniques des exploitants, leurs assolements, ce genre de choses, mais on ne connaît pas en détail leur calendrier de pâturage ou ce genre de choses. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les exploitations, elles sont pastorales, c'est-à-dire qu'elles vont faire sortir leurs troupeaux beaucoup pour les alimenter, ou au contraire, si elles sont plus intensives, c'est-à-dire qu'elles vont rester longtemps en bergerie avec beaucoup d'apports en foin, etc. Et ça, la seule façon de le savoir, c'est de faire des enquêtes. Donc d'aller dans les exploitations, d'aller faire des diagnostics pastoraux pour mieux comprendre tout ça. Et ça, c'est hyper important pour nous, parce que c'est en fait, tout dépend des pratiques agricoles pour la conservation du site, et finalement c'est une donnée qu'on n'a pas, qu'on pourrait arriver à avoir si on avait beaucoup de moyens et beaucoup de ressources humaines pour faire ces enquêtes là donc du coup on est bien embêté. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas en capacité de faire ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire de donner voilà, un indicateur du bon état du site, du bon état de conservation, de la bonne vitalité des pratiques pastorales.
C'est un peu pareil au niveau de la problématique, toi ?
Ouais, ben nous, on a un historique, hein, puisque le parc est là depuis 1970, mais on s'est structuré là en 40 ans maintenant, même 50 ans, pardon, je me trompe d'une décennie. Donc au début, on avait des outils effectivement assez frustres hein, pour faire de la carto. Maintenant, on a beaucoup de moyens, mais les données, il y en a qu'on a perdu, on faisait pas les choses, on mettait en place des protocoles, mais qui sont plus les mêmes que maintenant. Donc en fait, cet historique, il est très important, en fait, savoir quelles sont les données qu'on avait avant, comment ça a évolué jusqu'à nos jours. Et ça, c'est toujours le défi, parce que voilà, on est toujours à courir, effectivement, après la donnée, en se disant, mais comment est-ce qu'on peut comparer si on n'a pas les mêmes techniques, les mêmes façons de collecter la donnée depuis voilà, les années 70. Donc ça, c'est un sacré défi. Et après, c'est assez frustrant, parce qu'il y a plein de domaines qu'on voudrait investiguer, et on a rarement le temps ni les moyens de le faire. Voilà, comme disait Dominique, effectivement, le nerf de la guerre, c'est quand même comment on collecte la donnée, de quelle façon, etc. Et voilà, et on est toujours frustré. Là, par exemple, bon, on a une problématique sur les écobuages en ce moment. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de feux qui ont été faits sur le territoire. Et nous, on est un peu coincés là-dessus. On se dit, mais voilà, bon, alors ok, c'est une problématique, mais on n'a pas trop de recul là-dessus. Comment est-ce qu'on peut quantifier ce phénomène-là, et comment est-ce qu'on peut, voilà, discuter de l'éco-buage avec le territoire à partir de pas grand-chose, quoi, quelque part. Donc, il y a beaucoup de défis. Ouais.
Pourtant, d'ailleurs, sur l'éco-buage, il faudra qu'on en rediscute, parce que nous, on avait travaillé sur des méthodes de cartographie des éco-buages aussi.
Okay.
Donc, voilà, on a aussi des liens à faire. Mais ça, c'est vrai que c'est des questions intéressantes, parce qu'on voilà, on veut représenter un phénomène et on n'a pas la donnée. On peut l'avoir indirectement. C'est vrai que sur les éco-buages, mais oui, on a par exemple des données satellites qui sont très intéressantes, qui permettent de capter aussi la lumière dans l'infrarouge. Et donc ça nous permet de calculer des indicateurs sur les types de surfaces. On peut arriver à détecter les zones qui ont été brûlées, en fait. Mm-hmm. Donc ça, et tout ça, c'est extrêmement technique. Il y a beaucoup de faux positifs, etc. Donc ça demande de mettre en place des chaînes de traitement qui sont très lourdes, parce que les données satellites, c'est très lourd, etc. Donc il faut derrière mettre en place aussi des algorithmes, des traitements un peu mathématiques, des chaînes aussi conditionnelles pour aller filtrer les données, etc. Donc tout ça, ça demande beaucoup de temps, en fait, et voilà, c'est vraiment sur ce genre de choses qu'on peut avoir besoin de collaborer. Donc...
Désolé, on parle boulot.
Mais j'adore organiser des réunions entre l'entente et le parc national de Sévennes, c'est génial, on est là pour ça en plus. Est-ce que, comme tous les cartographes, vous voyez des cartes partout ?
Oui. Enfin, moi, en plus, il y en a partout maintenant. Hein. Regardez, hein, votre portable, vous ouvrez un écran, toc, il y a de la cartographie absolument partout. Bon, malheureusement, la guerre en Ukraine nous montre que les cartes, comme disait Dominique, c'est le nerf de la guerre aussi. Donc, oui, il y en a partout. On est envahi quand même par ça. Mais voilà, mais après, ça n'empêche que c'est quand même un outil fabuleux. Quoi.
Je dirais que dès qu'on voit une carte, on a tendance à regarder si elle est bien faite.
Oui, aussi.
Les formations professionnelles. Allez, avenue Jean Monestier à l'entente, hein, parce qu'il y a plein de choses à apprendre là-bas. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cartes ce matin. Kizito pour le Parc National des Cévennes, Dominique pour l'entente UNESCO. Revenez faire une réunion quand vous voulez ici, il n'y a pas de problème. Alors Kizito, on va quand même dire un mot. Est-ce qu'au niveau du personnel, comment ça se passe, puisque tu es représentant du personnel au Parc National des Cévennes?
Tout à fait, toujours.
Tu es venu nous faire un petit point l'année dernière. Oui. Comment ça se passe en ce moment?
En ce moment, c'est un peu le statu quo, hein, puisque avant les élections, rien ne... Enfin, on est resté à peu près dans les mêmes conditions. On a maintenu en fait les effectifs, hein, dans les parcs nationaux, donc ça c'est déjà un bon point. Là on sait pas trop, hein. On n'a pas d'annonce évidemment. Bon, il y a eu la réélection de monsieur Macron, on verra. Pas d'annonce. Il paraît qu'il va y avoir un nouveau monde, alors on attend avec attention de savoir si effectivement on va donner aussi des moyens pour la protection de la nature, de la biodiversité. Je pense que voilà, ils l'ont dit, hein, l'idée c'est quand même qu'on mette la planification écologique au premier plan. Donc j'espère que pour les structures comme les nôtres, ça va se traduire positivement. On verra, je ne peux pas en dire beaucoup plus actuellement.
On vous le souhaite en tout cas, et ce nouveau monde, on le cartographiera évidemment. Super. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi prochain. Pourquoi lundi, nous ne sommes pas là. Mercredi prochain, on parlera du festival Chape ou pas Chape. On parlera de pêche aussi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien, prenez soin de vous. À mercredi. Ciao.
On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous? Elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes.
Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent? Qu'ont des tripes, qu'ont des couilles, qu'ont la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants. Nous, ce qu'on veut, c'est du beau, c'est du brillant, c'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous, ce qu'on veut, c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons? On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles, c'est très bien, mais ton petit grain de voix, on s'en fiche. S'il te plaît, va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur la fiche.
Il faut des gens beaux.
Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux.
a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano.
Eh hey monsieur, toi qui veux retourner au noir et blanc, aux belles heures du passé, je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je suis pas persuadé qu'Edith Piaf possédait de belles jambes élancées, qu'elle allait défiler sur des beaux podiums avec des grandes marques de talons compensées. Eh hey monsieur, toi qui es nostalgique des chanteurs bien foutus, des bimbos, faut que tu saches un secret important, c'est que Brassens n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais monsieur, parfois il faut se taire. Moi je veux voir Oshi sur un poster.
Il faut des gens beaux.